La parole est maintenant à l'ambassadeur Chaz Freeman, chercheur principal au Watson Institute. Et il remercie Helga Tseplarouche pour ses remarques. En montant à ce podium, je me suis rappelé d'une conversation que j'ai eue avec un prix Nobel de deux fois, l'un pour la chimie et l'autre pour la paix. Il avait 90 ans, comme M. Larouche. Et je lui ai demandé, quel est le secret d'une longue vie?
Et
je pensais qu'il allait dire, il faut prendre la vitamine C ou ce genre de choses. Mais sans hésitation, il a dit, ne lâchez jamais le rail. Et donc je me rends compte qu'il n'y en a pas, mais voilà. Nous sommes entrés dans un monde où, comme William Butler Yeats l'a dit en 1919, les choses s'effondrent, le centre ne peut plus tenir, l'anarchie élémentaire est déchaînée sur le monde. En Europe, aux États-Unis et dans certaines parties de l'Asie, il y a une certaine appréhension, un sentiment de malaise sur l'avenir. Il y a une dérive contrariante au sein d'une paralysie politique et la démagogie monte et la puanteur du fascisme est dans l'air. Les développements dans la politique américaine sont particulièrement déconcertants. Le peuple américain vient d'ouvrir, hélas très tard, la discussion sur le rôle des États-Unis dans le monde. Nous, citoyens des États-Unis, aurions dû avoir cette conversation il y a 25 ans, quand l'Union soviétique s'est effondrée et que la guerre froide toucha à sa fin. Aujourd'hui, nous affichons nos différences sur la politique étrangère dans des circonstances où les incertitudes au niveau de la politique internationale et de l'économie sont particulièrement décourageantes. Peu sont encore capables de se rappeler aujourd'hui de l'optimisme qui a prévalu lorsque l'Allemagne se réunifiait, que l'Europe est devenue une et libre, et que la Chine a rejoint le monde capitaliste, et que la Russie aspirait à se démocratiser et à faire de même. Presque personne ne voit aujourd'hui grande chose à admirer dans les résultats de la politique étrangère des États-Unis depuis ces événements. Une poignée affirme que notre utilisation de la force aurait dû être plus vigoureuse et soutenue, mais la plupart croient que les interventions militaires récentes des États-Unis ont été contre-productives. Un nombre croissant d'Américains affirment leur scepticisme sur les interventions à l'étranger. Dans un monde d'ambiguïté, le choix est posé de façon binaire. Êtes-vous pour ou contre l'utilisation de la puissance militaire des États-Unis? Mais les divisions entre les deux côtés doivent encore être déterminées clairement. Le débat prolifère au sein d'une campagne électorale alimentée par un mal-être national auquel la politique étrangère est au mieux marginale. La discussion sur les missions internationales des États-Unis et ses responsabilités ne fait que commencer. Il est incohérent et il laisse les Américains autant perplexes qu'il alarme les alliés, partenaires et les amis outre-Atlantique. Les Américains ont du mal à formuler des approches alternatives à la politique étrangère, mais ils rejettent clairement le fait de faire plus de la même chose. Ils peuvent avoir des différences sur ce que plus de la même chose veut dire, mais quoi qu'il puisse être, la plupart n'en veut pas. Dans ce sens, les Européens ne sont pas très différents. Tout le monde a conscience que des transformations majeures dans la distribution de la richesse mondiale et du pouvoir ont lieu. Un malaise omniprésent rend compte de l'engouement de beaucoup en Europe et aux États-Unis à des slogans vides de sens qui sont présentés comme de nouvelles idées sur la façon de gérer les frontières, les migrants, le commerce extérieur et les investissements, les relations avec les alliés et les adversaires et les innovations dans l'ordre international existant. Des incertitudes supplémentaires émergent du marasme économique né de l'impasse politique, des échecs législatifs sur la politique fiscale, des politiques monétaires radicales mais improductives, de la propagation de l'autoritarisme, de l'antipathie renouvelée entre l'Ouest et la Russie, et de beaucoup de discours de bas niveau par des politiques ambitieuses, mais qui sont mis en cause aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. L'effondrement de la Pax Americana contribue de façon importante au nouveau désordre mondial. C'est énervant pour les Américains, ainsi que pour les alliés et partenaires des États-Unis à l'étranger. Le mieux qu'on puisse dire là-dessus, c'est que parfois, il désoriente aussi les adversaires des États-Unis. Puis, il n'y a même pas d'accord sur ceux qui sont ces adversaires et ceux qu'ils puissent vouloir. Avec la disparition du totalitarisme messianique, les Américains ont succombé au syndrome d'absence d'un ennemi. C'est le sentiment de malaise qui vient de la désorientation qu'on peut avoir lorsque son propre establishment militaire ou industriel n'a plus d'ennemi évident sur lequel se focaliser. La politique européenne a accepté traditionnellement que les alliés sur certaines choses peuvent être des adversaires dans d'autres choses, que le pouvoir militaire n'est pas en lui-même une solution à beaucoup de problèmes, et que les intérêts à long terme peuvent exister de sacrifices à court terme et qu'il est souvent plus sage de concilier et non de confronter ceux qui cherchent des changements limités à l'ordre existant. Ce sont de nouvelles pensées pour les Américains, cependant, qui n'ont été éduqués à l'école des relations internationales qu'à celle de la guerre froide, lorsque la diplomatie semblait plus à une guerre de tranchées plutôt qu'à la guerre de manœuvres. Dans beaucoup d'aspects, la longue compétition avec l'URSS a fait des États-Unis un cheval à un seul tour. Washington a appris à faire appel à la dissuasion militaire et à la punition à travers les sanctions avant de considérer l'appel à la diplomatie afin d'éliminer les sources de désaccords qui créent les dangers qu'il tente de résoudre. Et la dissuasion est problématique parce que non seulement il y a le risque de guerre par accident et qu'elle ne marche pas toujours, mais aussi parce qu'elle immobilise et retarde les conflits potentiels plutôt que de s'adresser à leur cause. La dissuasion empêche les troubles immédiats et gagne du temps pour la diplomatie, mais s'il n'y a pas de diplomatie, la dissuasion ne fait que stocker les troubles pour plus tard, à un moment où le sort a pu bouger à l'avantage de l'un ou de l'autre côté. C'est le cas particulièrement quand les équilibres de pouvoir changent rapidement, comme ça a lieu dans la région indo-pacifique. Les Américains semblent chercher leur voie vers la réalisation que résoudre les questions qui conduisent deux adversaires vers le combat est une meilleure approche vers le maintien de la paix que d'essayer de gérer le risque en promettant de répondre par la force à l'utilisation de la force. Si c'est le cas, c'est une évolution saine dont tout le monde doit se réjouir. Elle offre de nouvelles opportunités aux alliés et partenaires des États-Unis pour optimiser le pouvoir potentiel encore énorme des États-Unis pour façonner, diriger et maintenir un meilleur futur que celui qui émergera d'un désordre actuel global. Mais du point de vue américain, les alliés de Washington semblent plus confus que jamais. Les Européens parlent en différentes langues et de façon contradictoire. Le débat sur le Brexit, le vote pour le Brexit, vient juste d'exacerber la confusion européenne. Le Brexit promet de briser l'ordre de la post-guerre en Europe, d'écarter les Britanniques du rôle d'intermédiaire conjoint entre les États-Unis et le continent et de frapper un coup potentiellement fatal à la relation spéciale des Britanniques avec l'Europe et les États-Unis. Il s'agit là de propositions mal conçues pour renégocier les relations transatlantiques et transpacifiques avec les États-Unis, les règles du commerce mondial et les relations États-Unis-Russie ou États-Unis-Chine sur le sentier de la campagne présidentielle américaine. Un nombre croissant d'Américains comprend que si les États-Unis n'écoutent pas les voix de ses alliés, il viendra un temps où il n'en aura plus Mais d'autres demandent comment des pays qui dépensent relativement peu dans leur propre défense, préférant la laisser à l'oncle Sam, peuvent être considérés comme des alliés plutôt que des simples protectorats. Les alliés sont des pays qui ont des obligations mutuelles et des responsabilités envers chacun, et non une dépendance vers un seul côté. L'utilisation à la légère du terme « allié » cache le fait, notamment en Asie ou au Moyen-Orient, que les États-Unis ont des vassals et des États clients qu'il a pris sous sa protection unilatérale et non pas des alliés engagés dans une défense commune. Par contraste, les États-Unis ont toujours cherché des alliés en Europe, pas des satrapies ou encore moins des lèche-bottes ou des sycophants. C'est pourquoi les Américains ont beaucoup soutenu le projet européen. À mesure que l'effort d'unifier l'Europe faiblit, l'espoir des États-Unis, c'est que l'Europe puisse éviter le retour au déséquilibre du pouvoir et aux effondrements politiques et économiques qui ont, en trois occasions, lors du siècle dernier, exigé que les États-Unis viennent à sa rescousse et finalement en fasse une forteresse. Pour être franc, dans les circonstances présentes, les Européens et les Américains doivent continuer à être vus comme des alliés, d'être écoutés en tant que tels par les Américains. Les Européens doivent changer leur attente d'eux-mêmes et des États-Unis. Ils doivent faire plus pour leur propre défense et former et communiquer des visions cohérentes de ceux dont ils ont besoin et de ceux dont ils n'ont pas besoin des États-Unis pour renforcer leur propre pouvoir militaire. Ils doivent s'équiper eux-mêmes afin de persuader le peuple américain que c'est dans l'intérêt des États-Unis qu'ils puissent obtenir ce qu'ils demandent. La même chose est vraie pour les partenaires non européens tels que le Japon et la Corée du Sud. Pour le mieux ou pour le pire, le monde est entré dans une ère de relations transactionnelles et non plus des coalitions basées sur la confrontation contre un ennemi global commun ou des engagements mutuels en vue des intérêts et des visions stratégiques partagées. L'appel à justifier une fois de plus et en même temps à restructurer les garanties de défense des États-Unis à l'étranger vient nous rappeler que pendant 160 ans, les États-Unis ont, avec grande précaution, évité des alliances trop contraignantes. Cette position a pris fin seulement en 1949 lorsque les États-Unis ont rejoint le Canada et 10 autres nations, 10 nations européennes pour former l'OTAN. Washington a ensuite cherché à contrer la menace perçue, c'est que l'URSS de Staline pourrait tenter de dominer, sinon conquérir, pas seulement l'Europe, mais le monde au-delà de l'hémisphère ouest, ajoutant de la puissance dans le vieux monde au point à qu'elle pourrait poser un défi existentiel au nouveau. Mais l'Union soviétique n'est plus, malgré tous les efforts aujourd'hui, pour présenter la Russie comme un prédateur implacable, l'Europe ne doit faire face à aucune menace comparable à celle d'autrefois. Avec le soutien des États-Unis, l'Europe s'est rétablie de la Deuxième Guerre mondiale et a renforcé sa culture politique démocratique. Elle a bénéficié d'un quart de siècle de paix, de prospérité et d'expansion du règne de la loi depuis la fin de la guerre froide. Rien que les membres européens de l'OTAN ont des populations. Les membres européens de l'OTAN ont des populations quatre fois plus grandes que celles de la Russie et un PNB au moins neuf fois plus grandes, donc elles ne sont pas faibles. Les budgets militaires sont en dessous de ceux qui sont demandés par l'OTAN, mais elles dépensent au moins trois fois plus pour la défense que la Russie. Certains maintiennent des forces armées formidablement efficaces. Il n'y a pas d'exigence actuellement pour que les Européens continuent à dépendre des forces des États-Unis pour leur défense. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant qu'un nombre croissant d'Américains croient que l'alliance transatlantique est en retard pour un rééquilibrage nécessaire. Certains demandent si l'OTAN est encore nécessaire, quelles étaient les questions? Mais loin de vouloir se séparer de l'Europe, la plupart des Américains veulent une relation de sécurité plus égale avec elle. Ceci en raison du fait que trois guerres dans le XXe siècle, deux chaudes et une froide, ont montré, à notre avis, que l'Europe et les États-Unis sont une zone géopolitique unique dans laquelle la sécurité et le bien-être de chacun est connecté à l'autre de façon inextricable. Une architecture de sécurité européenne est nécessaire pour maintenir une coopération en matière de sécurité et maintenir la paix parmi les Européens. Les États-Unis ont besoin d'un lien à cette architecture pour défendre ses intérêts vitaux de façon stable avec l'Europe et l'Eurasie. Et l'Europe a besoin d'une participation dans la sécurité européenne pour éviter la domination de sa plus grande puissance, l'Allemagne, et lui permettre d'équilibrer et de coexister pacifiquement avec la Russie. Ces réalités créent un cadre incontournable pour la coopération transatlantique, mais elles ne se feront pas par elles-mêmes. Elles sont affaiblies par le Brexit et autres tendances séparatistes ailleurs en Europe. Elles ne conduisent pas automatiquement à une sécurité coopérative et à des relations coopératives avec la Russie ou la Turquie ou à une stabilisation avec les contrées aux frontières entre l'Eurasie et l'Europe. La possibilité de faire tous ces arrangements demande une qualité de leadership qui a brillé par son absence depuis la fin de la guerre froide. La paix et la stabilité en Europe et en Eurasie exigent la reconnaissance par l'Europe et la Russie que tous deux ont un intérêt vital dans une Ukraine unie, prospère et indépendante. Une telle Ukraine ne peut émerger sans restreinte et réassurance en même temps par tous les deux. Un modèle pour ceci est le traité de l'État autrichien de 1955 qui a établi l'Autriche comme nation souveraine et démocratique avec des garanties pour les minorités ethniques. L'Autriche a cimenté sa liberté en déclarant sa neutralité permanente entre l'Est et l'Ouest et en développant une force de défense fédérale crédible. Si ceci a pu être fait pour l'Autriche au plus fort de la guerre froide, ça peut être fait pour l'Ukraine dans des circonstances bien moins confrontationnelles. Il serait dans l'intérêt de tous, surtout des Ukrainiens, d'établir l'Ukraine à la fois comme une zone tampon, mais aussi comme un pont entre l'Europe et la Russie. Les Européens et les Russes ont prouvé au-delà de tout doute que chacun est préparé à frustrer et à punir les tentatives de l'autre pour absorber ou dominer l'Ukraine. Les États-Unis ont prouvé ce qu'on peut compter sur eux pour soutenir l'Europe militairement, pour résister contre une invasion russe de l'Ukraine. Le résultat est une impasse dangereuse, mais aussi une opportunité. Les deux côtés ont épuisé les mesures coercitives. Aucun ne peut espérer gagner quoi que ce soit de substantiel de la poursuite d'une compétition pour la domination en Ukraine. L'escalade entre l'OTAN et la Russie est coûteuse et risquée. Elle n'amène aucun des côtés nulle part. La négociation des garanties mutuelles de l'indépendance et de la neutralité de l'Ukraine sur le modèle de l'Autriche reste l'option la plus intéressante. Mais sans une vision partagée entre l'Europe et la Russie pour cadrer ce résultat, l'impasse persistera. Voilà un cas où une grande négociation est appropriée. Les retraits mutuels et les réformes stipulées dans les accords de Minsk, les deux versions 1 et 2, fournissent un point de départ potentiel pour un processus diplomatique afin de consolider la place future d'une Ukraine indépendante entre l'Europe et la Russie. Comme à Minsk, l'Europe et non les États-Unis est la plus qualifiée pour conceptualiser et diriger un tel processus qui doit faire partie d'une vision plus large d'une sécurité coopérative en Europe. Une diplomatie américaine intelligente accueillerait positivement, plutôt que la résister, une participation russe à la gouvernance des affaires en Europe et dans la masse continentale eurasiatique comme un tout. Il y a de nombreux cadres institutionnels pour cela, y compris l'OSCE, le Conseil Russie-OTAN, le Conseil de l'Europe, l'Organisation de coopération de Shanghai et d'autres. La réintégration de la France post-révolutionnaire dans le concert de l'Europe après les guerres napoléoniennes a montré comment l'inclusion d'anciens adversaires dans le processus décisionnaire peut promouvoir une paix à long terme et la stabilité en Europe. L'exclusion de l'Allemagne post-Wilhelmine et de la Russie post-tsariste des conseils de l'Europe après la Première Guerre mondiale n'a pas très bien marché. L'expérience devrait faire comprendre le danger d'exclure des grandes puissances d'un rôle approprié à la gestion des affaires dans lesquelles elles ont un intérêt légitime. Les États-Unis, l'Europe et la Russie doivent aussi s'adapter à un monde dans lequel la Chine et l'Inde rejoindront le Japon en tant que nation ayant une portée globale. C'est un ajustement particulièrement difficile pour les États-Unis. Ils ont dominé le Pacifique occidental depuis 71 ans. Ils sont devenus habitués à être les gardiens du bien commun et l'indispensable arbitre des disputes dans la région. Maintenant, ils doivent accommoder une Chine montante, une Inde plus affirmée et un Japon plus indépendant. Les institutions existantes, telles que l'ASEAN, l'Association des pays de l'Asie du Sud-Est, sont divisées et n'arrivent pas à gérer ces affaires efficacement. Les changements d'équilibre de pouvoir en Asie-Pacifique sont pour la plupart provoqués par l'économie. Par contraste, le prétendu rééquilibrage vers l'Asie d'Obama est presque entièrement militaire. Les États-Unis, le Japon et la Chine sont ainsi criés les uns aux autres. Mais un processus fragmentaire d'accommodation est en train de se faire au milieu de ces propos très exagérés concernant la question territoriale maritime auxquelles les États-Unis n'ont pas une partie. Des asymétries énormes entre ce qui est en jeu, c'est pour la Chine et pour les États-Unis, sur ces questions sont dangereuses. Pour paraphraser les commentaires pressants de Bismarck sur les Balkans, 26 ans avant la Première Guerre mondiale, et il cite, « Toutes les pierres, les récifs et les bancs de sable ne valent pas la vie d'un seul marine américain. Mais s'il devait y avoir une autre guerre en Asie, elle sortira d'une satanée petite chose dans les mers de Chine méridionale et orientale. Les guerres peuvent avoir lieu, même quand les choses n'ont aucun sens. En Asie, comme en Europe, il y a un besoin urgent de diplomatie comme substitut aux approches militaires qui ne résolvent rien, mais risquent beaucoup. » Voilà le contexte global dans lequel, avec les États-Unis poussant la Russie et la Chine, il faut pour contrer le partenariat sino-russe, le Japon courtise la Russie, n'étant pas très. La Chine, de son côté, se rapproche de l'Europe. Et tout le monde est en train de courtiser l'Inde, nous sommes entrés dans un monde avec beaucoup de concurrence, beaucoup de balances nouvelles dans lesquelles la diplomatie doit jouer. Et à l'exception de l'Inde, les autres pouvoirs n'ont pas la même qualité. C'est le contexte global dans lequel la Chine a proposé d'intégrer toute la masse continentale eurasiatique par un réseau de routes, chemins de fer, pipelines, télécommunications, ports, aéroports et même des zones industrielles. Si le concept chinois d'une ceinture, une route est réalisé, il ouvrira une vaste région aux échanges économiques et interculturels, réduisant les barrières à la coopération internationale avec une zone de 65 pays, 70% de la population mondiale et plus de 40% de son PNB, générant bien plus que la moitié de sa croissance économique actuelle. Les coûts estimés des projets déjà sur le plan de travail est au moins 11 fois ce qu'a dépensé le plan Marshall. Les projets massifs d'infrastructures promettent de rendre possible des accroissements majeurs dans la vitesse de transport et de télécommunications, d'aller vers des prix beaucoup plus bas et de créer beaucoup de nouveaux emplois. Ils permettront d'intégrer la Russie et l'Asie centrale avec la Chine et l'Europe, connectant en même temps l'Asie du Sud par terre et par mer aux marchés et ressources naturelles des pays au nord, aussi bien que vers l'Afrique. En faisant du transport terrestre quelque chose de beaucoup plus efficace et en le liant à des ports nouveaux et aux aéroports, les propositions une ceinture, une route altéreront l'équilibre de pouvoir entre la puissance maritime et terrestre, y compris dans les régions arctiques qui deviennent aujourd'hui de plus en plus accessibles grâce au changement climatique. Ce concept, le projet une ceinture, une route, qui est l'un des principaux thèmes de cette conférence, est la série de projets d'ingénierie la plus vaste que l'humanité a jamais entreprise. Son potentiel de transformer la géoéconomie et la politique est proportionnel à son échelle. Il créera une arène plus grande pour la coopération pacifique et la compétition que n'importe quel empire n'a jamais fait. Et il le fera sans conquête militaire ou utilisation de force. Il offre ainsi un antidote à la myopie stratégique, au militarisme et aux grands jeux financiers qui sont à l'origine de ce grand désordre mondial. C'est une alternative à plus de la même chose auquel je pense que le monde devrait saluer et embrasser.